RMC, les grandes gueules.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
J'ai été très choquée. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, je pense que ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue.
Elle a été choquée, Madame Borne, ce qu'elle a dit hier chez nos confrères de TF1, choquée de ce qui s'est passé quand elle a essayé de prendre la parole, cette Marseillaise. Ça a été compliqué pour elle pour expliquer ce qu'elle allait faire. D'ailleurs, tous les autres groupes qui étaient présents dans l'hémicycle, tous les autres députés ont dit on n'entendait rien. On ne comprenait pas. Donc, elle a une nouvelle fois fustigé l'attitude de la France insoumise. Est-ce que c'est un échec d'utiliser le 49-3? Il y a quelques minutes, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était en direct sur RMC. Voilà sa réponse.
Quel échec?
Je crois pas.
Ah non?
Non, je ne crois pas parce que ça serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat à deux reprises en première lecture lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale parce que un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ça n'est pas un échec puisque il y a un texte. Et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre.
Eh oui, parce que la semaine prochaine, faut pas l'oublier ça, en théorie là, depuis hier, il est adopté. La réforme des retraites, elle est adoptée. Et si les motions de censure sont rejetées, à la fin de l'été, septembre prochain, la loi sur la réforme des retraites instaurant un âge à 64 ans, elle sera promulguée. Et la France sera à ce régime désormais. Alors, le 49-3 de la honte ou pas, il paraît que ça s'est joué jusqu'au dernier moment. Le président et la première ministre ont souhaité aller au vote. Et puis finalement, en comptant et recomptant, il paraîtrait que ça s'est joué à 5, à peine 5 voix près. Ils en veulent aux Républicains qui n'ont pas su tenir leurs troupes et faire en sorte que ça passe. Bon, on peut aussi jouer la partie, hein, aller au vote. Et si la loi est refusée par le Parlement, eh bien on reprend le texte, mon cousin, on le réécrit, on sort une autre réforme, et puis on repart devant les élus. Alors 49-3 de la honte ou pas, 32-16 pour en parler avec les GG, Jean-Baptiste Gébari.
Non, mais c'est une situation.
Est-ce que c'est la honte ou pas?
Je sais pas si c'est la honte, la rhétorique.
Sois honnête, Jean-Baptiste. Tu penses vraiment?
Non, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est vrai que la rhétorique politique du gouvernement, si on est complètement honnête, pour le coup, lundi, c'est pas un vote pour ou contre la loi, c'est un vote pour ou contre le gouvernement. Ouais. Puisque l'idée, c'est de censurer le gouvernement. Ouais. Donc je comprends bien qu'Elisabeth Borne dit que finalement, le texte qui est adopté sans vote, puisque c'est ça, en fait, à 49-3, le texte est adopté sans vote, c'est le texte issu des discussions entre les députés et les sénateurs, ce qui est vrai. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, lundi, le sujet, ce sera de savoir pour l'opposition, s'ils se mettent d'accord et s'ils sont suffisamment nombreux pour censurer le gouvernement. Après, ça renvoie à plein de sujets. Ça renvoie d'abord au sujet de la faiblesse aujourd'hui des partis politiques et de nos institutions politiques, ce qui se passe.
Ça renvoie surtout à un sujet d'un gouvernement qui s'y est pris comme un manche pour
expliquer les efforts. Ça renvoie effectivement sur le chemin lointain. Enfin, d'abord, si on se rappelle tous de la séquence, on est parti en 2017 sur une réforme universelle. Ouais. On se rappelle que,
à peu près
au milieu, réforme à point, pas d'âge pivot. En 2019-2020, juste avant le Covid, il y a l'introduction d'un âge pivot. C'est la première fois qu'on a cette dimension budgétaire qui arrive. Et c'était
Édouard Philippe qui voulait
le fruit effectivement des travaux d'Édouard Philippe. En 2022, on a une campagne sur une réforme uniquement budgétaire, qui donc sort la CFDT d'un accord possible. Et puis on a effectivement cette négociation qui est menée par Elisabeth Borne depuis décembre, ou cette concertation, enfin on l'appelle comme on veut, et qui n'arrive pas non seulement à convaincre les partenaires sociaux, pas à convaincre les Français, et qui, in fine, n'arrive pas à solidifier sa majorité avec les Républicains. Ça renvoie là aussi à un parti aujourd'hui qui probablement n'est plus celui qu'il était, qui n'arrive plus, entre guillemets, à tenir ses majorités. Donc ça renvoie à tout ça. Et effectivement, alors c'est vrai que si on regarde les choses un peu factuellement, le 49-3, c'est un outil légal, constitutionnel, oui, etc., etc. Il y a un vrai risque pour le coup. Et je pense que contrairement au 149-3 précédent, il y a un vrai risque que le gouvernement tombe pour cette fois.
On en parlera tout à l'heure dans le GG, c'était match.
Et donc, en quelque sorte, le président là aussi prend son risque. Et finalement, enfin moi je retiens un peu ce dont on dit que le président aurait...
Mais c'est pas la honte. Non mais vas-y.
C'est la honte, c'est la politique, et la politique, d'accord, c'est brutal. Donc c'est brutalement politique. Après je doute pas que Bruno trouvera d'autres qualificatifs.
Joël.
Oui, moi je sais pas si on peut dire que c'est la honte. Moi je vois plutôt que c'est le 49-3 de la débâcle. Et c'est une débâcle qui était annoncée honnêtement. quand tu vois comment s'est passée l'élection présidentielle, quand tu vois qu'il n'y a pas eu de majorité absolue, quand tu vois que dans les syndicats, la CFDT, qui était, on va dire, quand même un syndicat allié, entre guillemets, du gouvernement, c'est plutôt rattaché à la CGT. Quand tu vois que le mariage LR, la Renaissance, ça n'a pas été, enfin là, enfin je veux dire, tu vois bien que c'est une défaite totale. Enfin, et moi je vois un gouvernement qui est isolé, vraiment, qui est isolé, parce qu'en fait ses soutiens, ceux qui étaient censés être ses soutiens, ne l'ont pas été, en tout cas LR pas jusqu'au bout, ne le sont plus pour la CFDT. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est un 49-3 de la débâcle. Et si je dis, si, pour la honte en tout cas, je crois que
ah, c'est oui. La honte pour la démocratie, la honte peut-être pour,
vis-à-vis
des Français, la honte pour le président de la République, honte effectivement pour le gouvernement qui pouvait faire preuve de courage en disant on va au vote,
exactement.
On tente le coup, on va au vote.
Visiblement le proposer d'ailleurs.
Oui, le proposer.
On dit que Gérald Darmanin, que Aurore Berger côté parlementaire proposait d'aller
au vote. Et puis la démocratie, c'est aussi, c'est pas que des victoires, c'est apprendre à être battu aussi. Dire ben on a perdu, on reprend notre texte, on reprend notre réforme et puis on revient plus tard avec un autre texte.
Visiblement, un des arguments qu'a utilisé le président de la République pour en quelque sorte valider cette position, c'est le fait que la France, dans un contexte macroéconomique un peu compliqué, prenait de gros risques financiers, etc., pour sa dette, pour son image, pour sa signature, etc. Je ne sais pas si c'est d'abord, je ne sais pas s'il l'a dit, c'est pas exprimé comme ça, mais visiblement ça a été un des arguments. Et en quelque sorte dit, le destin de la France est plus important que les contingences politiques. Si c'est ça, c'est peut-être aussi ça.
Sur dire, quand tu dis aux Français, alors c'est bizarre parce que le président de la République aurait dit ça en Conseil des ministres. Mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, oui, puisqu'il ne se représente pas à la fin du quinquennat. Mais je considère qu'en l'état, les risques financiers et économiques sont trop grands, donc je vous autorise à utiliser le 49-3. Bruno Poncet.
Alors, moi je trouve que l'honte, c'est même pas assez fort, c'est pire que ça.
C'est quoi?
C'est une bérésina, c'est totalement, enfin, de toute façon, quand
c'est
j'entends...
un déni de démocratie aussi.
Ouais, et en plus quand j'entends, moi hier soir je me suis torturé, hein. J'ai regardé Elisabeth Borne, c'est 4 minutes là sur TF1, j'ai trouvé même Gilles Boulot assez offensif, contrairement à des fois où il était quand même assez soft. Et je trouve que quand elle parle que c'est l'endroit où on doit s'écouter à l'Assemblée nationale, enfin eux, en tout cas, quand je dis elle, mais eux, tous, cette majorité qui n'existe pas, ils n'ont pas écouté le peuple, ils n'ont pas écouté les Français, ils n'ont même pas écouté les corps intermédiaires, comme le dit Joël et Jean-Baptiste. La CFDT, c'est pas que c'est un allié du gouvernement, c'est que la CFDT, ils sont pas dans ce que nous on peut proposer comme syndicalisme de lutte, syndicalisme d'opposition à un monde capitaliste qu'on voudrait un peu descendre. Eux, ils sont pas comme ça.
Oui, mais ce matin, Olivier Dussopt dit on a eu 175 heures de débat, on a reçu les partenaires sociaux pendant plusieurs mois.
Non, mais c'est pas un débat. Moi, j'ai
il dit au bout d'un moment, faut trancher.
Et Jean-Baptiste,
on a l'arme constitutionnelle pour trancher, c'est le 49.
Non, mais Jean-Baptiste, je vais pas me contredire parce qu'il a vécu ça aussi. Moi, en 2018, nous, quand il y a eu la réforme ferroviaire, on nous a invités au ministère pour des concertations, où on te fait venir et où tu écoutes des gens parler, où ce que tu dis toi, on n'en a rien à foutre. Et à la fin, la loi ferroviaire, c'est pas compliqué. Spinetta sans rapport le 15 février. Je peux te garantir, la loi qui est sortie après le truc, c'était ce qu'avait écrit Spinetta. Il n'y avait rien de nouveau.
Ouais,
mais rappelle-toi, Jean-Baptiste, il faut être honnête. Et les concertations, c'est pas ça, écoutez. Le dialogue social, c'est pas moi, je parle, tu m'écoutes et à la fin, je te fais ta loi.
Ouais, mais alors, pour le coup, c'est un bon exemple, ou un exemple qui va pas tout à fait dans ton sens, parce que effectivement, il y a le rapport Spinetta, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas repris. Et moi, j'étais à l'époque député rapporteur de la loi, par exemple, sur les petites lignes. Lui proposait de fermer,
un
tiers des petites lignes, ce qu'on n'a pas fait. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai pas fait.
Vous l'avez pas fait, sauf qu'après, vous avez dit qu'à un moment donné, peut-être.
Et deuxièmement, là où il y avait une petite différence, c'est que par exemple, la CFDT Cheminot, ou l'UNSA Ferroviaire, étaient non pas du tout des supporters de la réforme, mais on a pu travailler au sens où on a pu vraiment négocier des amendements avec eux ou des positions avec eux. Là, du manière générale, le front syndical est uni contre la réforme. C'est aussi ça.
Mais ça, je comprends pas dans ce gouvernement, c'est de pas avoir compris.
Et d'ailleurs, c'était pas le cas, Bruno. Enfin, justement, dans la mouture précédente, Laurent Berger, patron de la CFDT.
Oui, il est pour la réforme. Il
s'est même engagé sur des congrès. Il est pour la réforme par point. Il s'est engagé sur différents congrès. Il a gagné ses congrès sur la réforme universelle. Donc, objectivement, il y avait un chemin avec Laurent Berger, avec la CFDT, sur la réforme universelle. Ce qui n'existe plus du tout maintenant.
Oui, mais là, tu sais, c'est pour prendre le verbe qui colle à la situation, c'est pourquoi être borné, quoi, ou l'adjectif, tu vois. Tu as la population qui est contre toi, tu as le Parlement qui est contre toi, tu n'as pas la majorité, tu as simplement une majorité relative. Et tu sais, on a l'impression que c'est un peu comme au moment de l'affaire Benalla, tu vois, il y a le président de la République qui dit vous c'est comme ça que vous le prenez. Allez, bah venez me chercher et moi je vais aller au tampon, je vais aller au carton, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on a dit au président quand on a voté pour les législatives? On lui a dit, on veut pas te donner les, on
toutes
veut
les
pas,
clés.
Voilà, on veut pas te donner toutes les clés. On veut que tu négocies, on veut que tu composes avec différentes oppositions. Et là, j'ai l'impression qu'il respecte pas, en fait. En fait, tu sais, ce vote, il date pas d'il y a 2 ans ou 3 ans. C'est moins d'un an. Donc, en fait, la logique, en fait, que les citoyens ont mis dans ce vote, elle est toujours présente pour moi. Et là, c'est comme s'il disait, ben, en fait, non, j'ai pas compris. Je veux pas ce que vous avez décidé. Je veux faire comme j'en ai envie. Et ça va pas du tout.
Il fait ça depuis 6 ans.
Ça va encore moins.
Donc, le 49-3, c'est presque un doigt d'honneur.
C'est un bras d'honneur. Honnêtement, hier, je l'ai appris comme ça. Je dis, c'est un bras d'honneur. Et j'ai revu l'image de Dupond-Moretti. Et je me suis dit, mais en fait, il était déjà en train c'était un gros bras d'honneur.
Alors
vraiment.
On va aller dans le Pas-de-Calais, écouter Mathieu qui est conducteur de train privé. Bonjour Mathieu, il est là?
Oui, allô, je vous entends, allô.
Bonjour Mathieu. Tiens, alors on va prendre l'expression de Joël, le 49-3, c'est un bras d'honneur ou pas?
Ouais, carrément. Je fais juste une petite aparté, je passe un petit bonjour à Bruno que j'ai eu l'occasion de croiser.
Ouais, je me dis c'est toi. On s'est vu avec le Gira, ouais.
Exactement, ouais, tout à fait. C'est pour ça, j'ai vu que t'étais là, j'entends parler du 49-3, on en a parlé, je dis, il faut que je téléphone.
Alors, pourquoi un bras d'honneur, Mathieu?
Là, très clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un maître et je dis oui, messire, et je m'agenouille et je courbe les chines. C'est exactement l'impression que ça me donne. Il y a très clairement la majorité de la population qui ne veut pas de cette réforme. Moi, j'en fais partie. Je suis dans le privé. Je fais quand même grève. J'ai fait grève jeudi. Je vais continuer à faire grève s'il y a besoin, malgré que ça me coûte du pognon ou quoi que ce soit, parce que je me vois pas continuer à tirer des trains. Alors que là, par exemple, je viens à peine de rentrer du boulot. Je suis debout depuis 23 heures hier soir. Ouais. Et je me vois pas continuer à tirer des trains à 64 ans. Surtout que nous, dans notre métier, et Bruno il peut le confirmer, nous on a une visite médicale obligatoire à passer, par exemple, tous les 3 ans. À partir de 55 ans, c'est tous les ans. Il suffit que ce soit recalé, je me retrouve sans boulot.
Oui, mais Mathieu, il y a la clause du grand-père qui va s'appliquer. C'est pour les nouveaux enfants.
Moi, j'ai rien du tout.
Ah, oui, d'accord.
Moi, j'ai une boîte privée. Je suis sous le régime du Code du travail. J'ai aucun avantage de la SNCF.
D'accord.
Donc, la clause du grand-père, elle existe pour les collègues cheminots, parce que pour moi, c'est des collègues, qui c'est pas des concurrents, qui sont au statut. Mais il faut savoir que la majeure partie aujourd'hui des personnes qui bossent dans le ferroviaire, ils sont pas cheminots, quoi.
Ouais. Mais Mathieu, vous avez 38 ans, qu'on soit en horaire décalé jusqu'à 40, 45 ans ou 50 ans, mais après. On n'est pas obligé non plus de continuer sur ce système. On peut réorganiser sa vie aussi, changer. Ouais. Mathieu, il y a ça aussi à prendre en compte.
Ça aussi, je suis d'accord qu'on peut organiser sa vie. J'ai déjà passé par plusieurs boulots avant d'être dans ce métier-là. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, dans le ferroviaire, je reviens vraiment là-dessus, par exemple. Moi, j'ai mes collègues qui ont 60 ans. J'ai même un collègue qui a 71 ans qui continue à tirer des trains parce qu'il le veut bien. Les horaires, c'est pas nous qui décidons en disant je vais faire du 9h-17h. Hein. Si on dit ton train il part à 3h du matin, ton train il part à 3h du matin et tu te lèves à 1h pour aller bosser.
D'accord. Donc et avec cette réforme et ce qui s'est passé hier, vous avez vraiment l'impression qu'on vous a mis une baffe et qu'on vous a fait un bras d'honneur, quoi, en fait,
Mathieu. C'est un bras d'honneur, c'est une baffe, et puis c'est très clairement fais ce que je te dis et tais-toi. C'est comme ça que je le prends. J'ai l'impression d'être.
Oui, mais le président vous a pas pris en traître. Hein. Il y a eu une élection présidentielle, un premier tour, ensuite des élections législatives, et on savait que cette réforme, ça avancerait, hein, Mathieu.
Bah, exactement. On savait que la réforme allait avancer. Maintenant, une réforme telle qu'elle est là, moi, je suis partant pour qu'il y ait une réforme, mais pas celle-là.
D'accord. C'est l'âge,
moi,
en fait.
Me dise, par exemple, qu'on me dit l'âge, c'est clair, c'est exactement ça. Si on me dit il faut que tu bosses 43 annuités, je vais les bosser 43 annuités. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis au boulot depuis que j'ai 16 ans. J'ai pas envie de continuer jusque 64 et des bananes. J'aurais préféré en effet qu'on dise on va mettre des systèmes d'annuité pour les personnes je pense aux couvreurs, je pense aux carreleurs. J'ai un collègue qui est menuisier ébéniste, il a mon âge, il a déjà le dos à moitié foutu. Pour les personnes qui ont justement ce type de boulot, de dire par rapport à la pénibilité, t'as des points bonus qui te permettent de partir pourquoi pas un peu plus tôt selon ton état de santé ou quoi que ce soit. Ok, c'est peut-être une usine à gaz, mais c'est quand même largement mieux que de dire maintenant tu le fais, tu te tais et puis t'as rien. Ouais. T'as
donc vous avez l'impression qu'hier à l'Assemblée on vous a dit vous n'êtes pas content, peu importe, fermez vos gueules et on avance et on passe, mais quoi, c'est ça.
C'est exactement ça. C'est soit beau et
tais-toi. Alors Jean-Baptiste Gibari.
Non, mais en fait ce que décrit Mathieu finalement c'est un peu les termes du débat de la réforme précédente, de la réforme universelle, c'est-à-dire on change de métier beaucoup plus souvent, on a parfois des conditions qui sont à prendre en compte. L'idée de la réforme à points, c'était ça. À chaque moment de votre vie, à chaque façon de travailler un peu différente, vous avez des points, vous faites l'acquisition de points qui vous valent des droits, et on avait essayé d'égaliser les droits pour de manière à mettre un peu plus d'égalité, ce qui effectivement n'existe pas tout à fait.
Et on va continuer la discussion. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Mathieu.
Bonne journée
du côté du Pas-de-Calais. À bientôt avec Joël Dagosséry, Jean-Baptiste Djebari, avec Bruno Poncé. Vous avez entendu ce qu'a dit Mathieu. Hier, il a eu l'impression d'avoir eu son bras d'honneur, qu'on lui dit bah, courbe la tête, courbe les chines, tais-toi. C'est au 32-16 qu'on continue d'en discuter. 49-3, une onde pour la démocratie, le bras d'honneur du gouvernement aux Français. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est avec vous comme tous les jours et plus que jamais vu les circonstances du moment, le 49-3 hier à l'Assemblée, les premières violences qui ont commencé, la semaine prochaine, le vote de la motion de censure. Durant ces 3 heures, on va vous donner la parole au 32-16 avec Joël Dagosséry, coach de vie, Bruno Poncé, cheminot et syndicaliste, et puis Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. C'est Luc qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence. Luc, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, ce 49-3, c'est un bras d'honneur aux Français ?
Oh ben, clairement, oui. C'est même un déni démocratique ouvert pour moi, au vu du contexte actuel. C'est-à-dire que vous avez quand même 70% des Français qui sont contre. Vous avez l'État d'un côté et les autres partis de l'autre, où quand même la majorité semble être contre, sauf si on prend les arrangements politiques. Ben, moi, pour être concret, si vous voulez, j'ai pas été manifesté. D'abord, la réforme des retraites n'est même pas mon sujet. Ce qui m'énerve vraiment, c'est ce déni démocratique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas manifesté contre cette réforme. Je pense qu'il y avait Étienne Lébig hier qui parlait de ça. Ça fait monter une colère. Et si jamais cette colère, peu importe la réforme de laquelle on parle, si cette colère, elle monte, en fait, si le gouvernement n'écoute pas le peuple et les oppositions, bah, au bout d'un moment, ça va exploser.
Mais pourquoi ? Alors attendez, parce que moi c'est toujours, on peut faire la nuance entre un bras d'honneur et le déni démocratique. C'est-à-dire que le bras d'honneur, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Mais le déni démocratique, c'est pas un déni démocratique, puisque le 49-3 est dans la Constitution.
Oui, c'est technique.
Ouais, et même c'est si technique, c'est technique, le gouvernement, s'il veut faire avancer son texte, parce que c'était dans le programme, il peut l'utiliser. Et derrière, il y a le jeu démocratique des motions de censure et autres. Voyez, Luc.
Ouais, mais vous savez, alors c'est assez intéressant parce que ça c'est un argument qui ressort très souvent avec vous. Sauf qu'en fait une constitution, ça bouge. Vous savez, on n'est rien hein, nous à l'histoire de l'humanité. Hein. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme les lois en fait. Il y a ce qui est légal et il y a ce qui est légitime. Mmh. Et là clairement, ça n'est pas légitime.
Exactement.
Donc il faut arrêter de sortir à chaque fois cet argument de c'est dans la constitution donc c'est bon. Non. Ouais. Et la constitution, on peut la faire changer aussi. Hein. On est vraiment dans une temporalité précise et clairement c'est imparfait. Et quand un système il est imparfait, ben, faut le faire bouger. Et là clairement le système aujourd'hui, on a la démonstration qu'il est imparfait puisque démocratie c'est quand même pouvoir au peuple. Et clairement là notre argument que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était ouais, bon, vous avez, quand même ils ont été élus, on a voté. Mmh. Ouais, mais la démocratie c'est pas je vote une fois et après je peux plus rien dire. Ça c'est complètement abscon comme argument. Je suis désolé. Ce qui compte c'est d'écouter le peuple pour pouvoir justement derrière justifier l'action du peuple
et alors,
du
gouvernement Joël,
pour le peuple.
Joël, vous écoutez
moi,
Luc.
C'est Luc ?
Oui.
Oui, Luc, moi je suis complètement d'accord avec vous parce que si on est un peu trop légaliste, ça c'est ça être trop légaliste. Ça veut dire que tu te dis bah j'ai le droit, c'est dans la constitution, c'est la loi, donc c'est bon. Mais non, en fait non, là ça manque de discernement, ça manque de sagesse, ça manque de légitimité et j'ai fait tout l'historique, il y a rien en termes de légitimité qui permettait au président de se dire je passe par le 49-3, notamment sur cette loi. Tous les sondages, toutes les opinions ont montré que, en majorité, les gens étaient contre cette loi. Les votes à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas les alliances qu'il a essayé de construire ont montré que même chez les Républicains qui étaient censés être normalement, enfin c'est leur loi quelque part.
C'est la réforme que les LR et notamment Sénat, ils ont toujours voulu. Ouais.
Exactement. Et même à l'intérieur des Républicains, il y en a qui étaient prêts à voter contre. Enfin quand c'est comme ça, tu dois comprendre qu'en fait le 49-3, t'es pas légitime pour l'actionner. Je suis désolée. Même moi, je suis de celles qui disaient que quand c'est dans la Constitution, c'est dans la Constitution, t'as le droit. Mais là vraiment, enfin je veux dire quand tu prends du recul sur la situation de Macron, sur son élection, sur tous les débats, tu sais que tu n'as aucune légitimité. Là, vraiment, je suis vraiment désolée, ça ne fonctionne pas.
Luc, allez-y, pardon.
Ouais, ben je disais, en fait, votre émission de radio, elle est parfaite parce que souvent, vous mettez en avant des lois qui ont nécessité d'évoluer. Mmh. On peut parler, par exemple, je sais pas moi, la pédocriminalité, par exemple. Vous savez qu'il y a des, il y a des lois aujourd'hui qui font que il y a ce qu'on appelle une période donnée. Si jamais vous dépassez la période, ben la pédocriminalité n'est plus du tout valable. C'est-à-dire que le temps fait que
la prescription.
Voilà, et vous êtes d'accord que dans votre émission, parfois on débat de cette prescription.
Oui, bien sûr.
La loi aujourd'hui, elle est telle qu'elle est, sauf qu'elle peut évoluer. Et ben, typiquement là, il y a plein de choses qui peuvent évoluer, notamment au niveau du déni démocratique. Le 49.3, est-ce que c'en est un ou pas?
Vous voudriez sortir cet article de la Constitution, quoi. Attendez, Jean-Baptiste Gibari.
Ouais, je pense que Luc, il y a deux choses. Il y a, à mon avis, le sujet de la substance de la loi dont on débat actuellement, et on a bien vu qu'en fait d'un sujet sur les retraites, c'est quand même rapidement devenu un sujet sur le travail, et là on peut tout à fait se dire que certains sujets n'ont pas été évoqués, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, et ça renvoie à tout le débat sur le fond, et puis il y a le sujet politique, démocratique, institutionnel, celui que vous décrivez, Luc, mais en vérité, il y a eu des propositions, y compris dans l'élection présidentielle précédente, pour instaurer une 6e République. Et force est de constater que quand vous avez une proposition,
ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis,
et en fait beaucoup d'autres, parce qu'y compris Sandrine Rousseau appelle à une 6e République, et peut-être qu'effectivement cette 5e République elle s'essouffle un petit peu. Mais pour l'instant, cette proposition politique structurée pour faire ou mettre en œuvre une 6e République, elle ne suscite
pas
l'adhésion.
Oui, mais c'est cette 5e République qui a permis aussi d'avoir
Les
Français ont aussi donné l'assemblée qu'ils voulaient aussi.
Bien sûr,
le président de la République est une assemblée de contestation.
Luc, il a raison de dire les lois, y compris les constitutions, même si c'est plus compliqué, elles évoluent au gré de l'évolution des sociétés. Il a complètement raison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de proposition politique structurée pour faire advenir une 6e République qui suscite l'adhésion. Il y a des propositions politiques, mais elles ne gagnent pas aux élections pour l'instant.
Merci à Luc d'avoir été avec nous.
Parce que tu as le bouton nucléaire que tu dois appuyer dessus. Enfin, tu vois, le 49.3, c'est un peu
comme... Il ne pas, d'ailleurs.
Tu vois, non, mais c'est un peu comme si tu avais...
Bouton nucléaire politique.
Exactement. Ce n'est pas parce que tu l'as sous ton bureau que tu t'es obligé d'appuyer dessus.
T'as raison, Joël. Et là, ils ont essayé de pas appuyer dessus.
Oui, mais ils ont essayé. Mais
à la... c'est pas moi qui effectivement.
Mais ils pouvaient ne pas appuyer dessus. Ils pouvaient aller jusqu'au bout. Ils pouvaient respecter. Ça m'oblige quand qu'il a dit après l'élection. Ils pouvaient aller jusqu'au bout.
Et on l'a vu aujourd'hui. T'es dans ce parti politique. Ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui ne savent pas à quoi ressemblent les gens qu'ils gouvernent. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que quand t'entends un bruit qui vient d'en bas, où on te dit, fais pas ça, un problème de pouvoir d'achat, là on rentre dans une période, le mois de mars, là, on est dans le mois de mars, où les prix vont vachement augmenter, et là c'est carré, et on te dit, attends, ta réforme de retraite, c'est pas la priorité, on a d'autres trucs. Ils s'en foutent. On te dit, arrête avec ce que t'es en train de faire, on n'est pas d'accord. Ils s'en foutent. Quoi que tu dises, ils s'en foutent. Et quoi qui, alors, et en plus, peu importe le messager. Que ça soit quelqu'un qui rencontre Macron sur un marché qui aujourd'hui, maintenant, tu peux plus rencontrer Macron sur le marché. Comme avant, tu pouvais rencontrer qui que ce soit. Jean-Baptiste a dû faire ça dans ta circo. C'est qu'à un moment donné, t'arrives et tu dis au mec, bon, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux plus avec lui. Aujourd'hui, Macron va quelque part, il est entouré par une armée où tu peux plus l'approcher. Et ceux qui l'approchent, c'est des gens qui ont été choisis. Et quand il n'est pas choisi, t'as vu ce qui s'est passé au centre de l'agriculture, le mec, tu l'étrangles à moitié devant tout le monde. Donc aujourd'hui, peu importe le messager qui explique à Macron que ça ne va pas, et aujourd'hui, t'apprends aussi par certains politiques que Macron n'écoute même pas ses conseillers. C'est-à-dire que lui, il a décidé d'un truc, il va le décider, peu importe. Oui. Et quand il te dit hier, et quand il dit à ses ministres, c'est pas ma carrière qui est en jeu, mais mon gars, on s'en fout de ta carrière, on parle des Français, on parle des gens, et Mathieu te l'a dit, Mathieu te le diront, à 64 piges, t'as plein de métiers que tu peux pas faire, et de dire, ouais, tu peux changer de métier cours de ta carrière, mais ça c'est bon quand t'as dans un certain type de métier, mais quand quelqu'un se retrouve caissière, la pauvre elle peut pas changer de métier parce qu'à un moment donné elle n'aura pas de temps.
Non,
ton histoire de coach de vie, moi j'entends, c'est super.
C'est pas mon histoire de coach de vie, c'est même ma propre histoire. C'est l'histoire d'amis. C'est pas une question, moi je suis une autodidacte, j'ai pas de grand diplôme, c'est pas vrai ça. Et puis même, arrête de me dire, j'ai des clientes, franchement j'ai une cliente là, elle était femme de ménage, elle a tout fait pour changer, elle ouvre un salon de massage. Donc franchement,
c'est pas un cas particulier qui te fait une réalité.
C'est pas un cas, mais c'est aussi une vérité qu'il y a des gens.
Non, mais arrête de condamner
les caissières. Tu seras caissière à 20 ans, à 60 ans tu seras caissière. Arrête de les condamner, s'il te plaît. On vit dans un pays hyper développé. Il y a des choses à faire pour sortir de sa condition. Mais au-delà de ça, moi je suis pas d'accord avec la façon de faire de Macron. C'est clair et net. Mais au-delà de ça, faut dire la vérité. Vous avez tous soutenu le système par répartition. Il ne tient pas avec tes 62 piges. Je suis désolée, tu peux dire ce que tu veux, il tenait pas avec les 60 piges, il tient pas avec les 62 piges, 64 piges, ça ne tiendra pas, on nous dira que c'est 67 ans, et c'est la vérité, donc arrêtez de soutenir un système qui tient pas, et après vous pourrez parler. Non,
vous pourrez parler. Financement, les chercher ailleurs.
Non,
pas le système.
Mais arrête, arrête.
Mais non, mais c'est facile de chercher tout l'argent, c'est tout ceux qui bossent.
Hein. Alors attends, on va ça repasser par le 32-16, retrouver Jacques qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour les GG.
Alors, un bras d'honneur, le 49-3 ou pas?
Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout. D'abord, un, parce que c'est un outil constitutionnel qui a été utilisé par maintes gouvernements quand il y a eu effectivement des faiblesses. On peut pas dire qu'il n'y a pas de faiblesse actuellement, mais pas du tout. À un moment donné, je crois qu'il faut bien avancer. Et entre les uns qui veulent couper la tête du roi et les autres qui attendent comme des hyènes que le cadavre soit quasiment mort, et que la droite républicaine, elle, a été, n'a pas respecté, en fin de compte, l'engagement qu'elle avait donné. Parce que je suis convaincu que Emmanuel Macron et son gouvernement ne souhaitaient pas le 49-3, parce qu'ils savaient très bien ce qui allait advenir avec le 49-3. Simplement, il y a des gens qui n'ont pas respecté leurs paroles, et ils ont été obligés d'utiliser cet outil démocratique. Démocratique. Oui. Oui, c'est un outil démocratique, pour moi. Alors, je vais citer mon cas personnel. Je suis photographe vidéaste, je suis en UERL, donc gérant non salarié.
Oui.
J'ai fait un petit calcul, je suis sur Internet, comme tout le monde, pour voir combien je touchais en retraite. J'ai 62 ans. Aujourd'hui, à 62 ans, 487 euros. J'ai un peu de trou dans la raquette.
C'est pas lourd, ouais.
Oui. Et à 67 ans, 800 euros. Ça veut dire que vous devez faire
votre retraite vous-même, quoi, en fait. Vous devez capitaliser, acheter un appartement, mettre un peu de rond de côté, c'est
oui,
ça?
Oui, sauf que le Covid est passé par là et qu'il m'a bouffé toutes mes économies.
Merde.
C'est pas pour autant que je suis sur les barricades en train de hurler. Parce que le problème, c'est que ces gens, je comprends, moi, qu'il y ait effectivement des difficultés physiques pour certains métiers, psychologiques pour d'autres, et qu'on doit aménager les choses. Mais à un moment donné... il faut aussi qu'on pense aux générations qui vont venir. Et je suis convaincu que le gouvernement et M. Macron n'ont pas fait ça pour emmerder le monde. Ils ont fait ça pour penser un petit peu à ce qui allait se passer derrière. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en termes de démocratie, il n'y en a plus. Parce qu'il a quand même été élu, lui, démocratiquement.
On est d'accord. Mais moi, je commence un peu à être fatigué par la démocratie n'existe plus. Je voudrais qu'on m'explique ce que c'est la démocratie. Parce que finalement, aujourd'hui, chacun s'arrange avec la démocratie et la fait à géométrie variable. C'est-à-dire, absolument. ça ne me plaît pas, c'est pas démocratique. Bon, bah, c'est démocratique. Le 49-3, c'est dans la Constitution, les institutions depuis 1958. Absolument. On l'a utilisé 100 fois. Ah, mais non, c'est pas démocratique. Ah, bah, si. Et je mets au défi, d'ailleurs, s'il y a une alternance, ceux qui arriveront au pouvoir, de défaire la cinquième pour de vrai. Oui, rappelons que François Mitterrand avait dénoncé le général de Gaulle, le coup d'État permanent. Il est arrivé au pouvoir à l'Élysée en 1981, il a endossé sur deux septennats les habits de la cinquième. Alors j'attends les grands donneurs de leçons du moment.
Je voudrais dire quelque chose.
Allez-y, Jacques.
Pourquoi le 49-3? Parce que effectivement, il aurait pu dire, bon, hop, je dissous et on repasse au vote. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
La démocratie, les gens iront voter.
Oui, ils iront voter, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les deux extrêmes qui vont se combattre, mais d'une force, mais d'une violence extrême. Et ça va être, alors c'est pas la chienlit, ça va être le bordel. Donc lui, il essaye de laisser, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi ce que je dis, de laisser la démocratie la tête hors de l'eau, pour que effectivement ça s'apaise un petit peu, parce que c'est ça le problème, c'est que on dissout, d'accord, on fait quoi une fois qu'on a
on en parlera, on évoquera les scénarios tout à l'heure dans le GG 7 et match sur la chute éventuelle du gouvernement. Jacques, je vous remercie d'avoir été avec nous. Jean-Baptiste Gébari, tu voulais ajouter quelque chose?
Jacques de l'Ardèche, c'est un pays démocratique et il faut vraiment voyager pour voir dans d'autres pays des systèmes plus autoritaires voire pire sont à l'œuvre, et heureusement qu'on peut s'exprimer, dire absolument ce qu'on veut en France. Il y a deux sujets. Est-ce que notre système démocratique il est efficace au sens est-ce qu'il produit des normes efficaces pour les citoyens, les travailleurs, la prospérité du pays, premier élément. Et la réponse est probablement plutôt pas assez efficace. Et deuxième sujet, c'est quand même qu'on est dans un moment effectivement où dans notre démocratie, on a un affaiblissement tous azimuts du système politique, de la représentation, des partis politiques, des syndicats, de l'idéologie. Il n'y a plus beaucoup d'idéologie en France et dans le monde d'ailleurs.
Si, des deux côtés extrêmes, des
propositions radicales, mais dans l'arc dit modéré, il n'y a plus beaucoup de propositions politiques, d'idéologie. Le macronisme, par exemple, c'est beaucoup chercher une proposition politique à faire prospérer. Donc tout ça, effectivement, ça crée aujourd'hui beaucoup de frustration. Et une démocratie assez peu efficace.
Je remercie Jacques d'avoir été avec nous. On va regarder, est-ce que le 49-3, c'est un bras d'honneur? Est-ce que c'est le 49-3 de la honte? Voyons votre sentiment. C'est un oui à 83%.